Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Capti intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Dominique Dinanga. Il est journaliste à la radio Top Congo FM, même étant de Kinshasa. Bonjour, monsieur Dominique Dinanga.
Bonjour, Guimaté. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Madame Gentille Soukoulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et bonjour, maître Gentille Soukoulati. Maître Gentille Soukoulati, est-ce que vous êtes là?
Je suis là, je dis je vous salue et je salue également vos auditeurs.
Merci. En ligne depuis Liège en Belgique, Pierre Virgence est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Je vous salue et je salue aussi tous les auditeurs et les personnes qui vont participer avec nous à cette émission.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Dominique Dinanga. Il est journaliste à la radio Top Congo FM, émettant de Kinshasa. Maître Gentille Soukoulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et en ligne depuis Liège en Belgique, Pierre Virgence, politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Au menu de cette émission, intensification des combats entre d'une part les rebelles du M23 RDF et d'autre part des groupes armés et les FRDC. Présidentielle de décembre 2023, des requêtes en invalidation de certaines candidatures et enfin, crise entre les pétroliers et le gouvernement congolais avec légère hausse du prix du litre des carburants. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du conflit intercommunautaire entre l'Embole et l'Engola dans la province de la Tchopo. En effet, 13 personnes ont été tuées dimanche dernier dans les secteurs Balinga-Linja et Toli, dans les territoires d'Opala, province de la Tchopo, suite au conflit entre l'Embole et l'Engola. Selon des sources concordantes, un affrontement a eu lieu au village Lissouma entre les deux communautés au cours duquel Embole a été tué. Les mêmes sources précisent que l'Embole ont, en revanche, capturé 12 l'Engola. 8 ont été exécutés publiquement au village Yalokwa et 4 autres l'ont été dans les mêmes circonstances au village Yakoku. Ce conflit qui a déjà fait plus de 500 victimes avait éclaté entre les deux communautés en mars dernier à la suite d'un conflit foncier impliquant les autorités provinciales. Dominique Dinanga, comment vous réagissez à ces conflits qui fait beaucoup de victimes et qui ne concerne plus seulement les deux communautés, l'Engola et Mbole, parce qu'il s'est même étendu à d'autres communautés de cette province de la Tchopo?
Merci beaucoup pour la parole, Guy Maté. Il faut le dire, nous sommes préoccupés par cette situation quand nous avons encore en tête le phénomène Kamuina-Nsapu, des tristes mémoires qui a coûté la vie à plusieurs milliers de compatriotes et qu'aujourd'hui un autre conflit du genre surgisse. Cela doit nous préoccuper au plus haut point. On parle d'un conflit qui tire son origine du foncier et selon le gouvernement provincial, d'ailleurs, plus de 500 personnes ont déjà été tuées et plus de 70 000 déplacés enregistrés depuis Les débuts de ces conflits, c'était au mois de février. Cela doit nous préoccuper. 500 personnes qui partent comme ça, en dépit des efforts conjugués par les autorités. Mais ce qui doit encore beaucoup plus déranger dans cette histoire, c'est l'implication de certaines autorités provinciales qui sont censées protéger la population, et c'est bien. Ça doit nécessairement préoccuper. Nous avons appris dernièrement qu'une unité de la police a été dépêchée en provenance de Kinshasa pour faire face à ces violences persistantes dans la commune urbano-rurale de Lubunga et d'autres entités. Alors, cela ne suffit pas parce que je pense qu'il faut préconiser d'abord entre les deux communautés le dialogue. On ne peut que résoudre ce genre de problèmes avec le dialogue, c'est mettre autour d'une table et enterrer la hache de guerre, parce que la guerre ne profite à personne. Par contre, quand il y a la guerre, on ne sait pas aller au champ, on ne sait pas se débrouiller pour nourrir la famille. Donc je pense que la paix profiterait à tout le monde, alors que le conflit ne profiterait à personne. Je préconise aussi le rétablissement de l'autorité de l'État dans la zone. La police a été certes déployée, mais il faut reconnaître aussi ces problèmes d'insuffisance des éléments de la police. Il faudrait que cette police soit non seulement renforcée, mais aussi qu'elle soit dotée des moyens nécessaires pour faire face à la situation, mais aussi s'adapter même au monde opératoire des parties en conflit. Et au-delà de tout ça, la justice devrait faire son travail, mener des enquêtes indépendantes, établir les responsabilités et punir sévèrement le coupable. Je pense que tous ces facteurs réunis peuvent ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Merci, Maître Gentil Sukulati. Plus de 500 personnes tuées en 8 mois et de nombreux déplacés. Un conflit dont on ne parlait pas assez. Peut-on parler d'un conflit oublié?
Bien, merci beaucoup, M. Guy. Ça doit quand même être une inquiétude pour les Congolais de voir des vies humaines qui partent chaque jour. Et on en a quand même assez. Assez parce que 500 personnes, c'est plusieurs familles. Est-ce que doit-on accepter que les familles perdent les leurs dans ces conditions? Moi, plutôt, immédiatement, je dois interpeller les autorités. Il faudrait que les autorités essayent de faire quelque chose, qu'on dise halte aux morts. Les Congolais sont partis de milliers et de milliers. Nous sommes en train de pleurer pour la est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, parler de la Tchopo, c'est quand même une mort de plus. Moi, je me dis, est-ce que nos autorités regardent avec un œil insistant sur ces faits pour qu'une solution soit trouvée aussi rapidement possible? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle d'un conflit oublié. Dès lors qu'on parle d'un conflit oublié, c'est-à-dire que ce serait toujours des Congolais qui seront en train de mourir chaque jour. J'ai entendu là Dominique Binanga parler de la justice. Oui, la justice doit intervenir. Mais avant que la justice intervienne, nous interpellons les autorités, même provinciales, pour voir cette situation de près, où les concernés ne peuvent pas se retrouver autour d'une table pour discuter, trouver la solution. Il peut agir seulement d'un conflit sur les terres, mais aujourd'hui, là, nous pouvons parler de milliers et de milliers de Congolais qui partent chaque jour. C'est inquiétant, cette situation. C'est vraiment inquiétant. Nous appelons aux autorités de prendre toutes les dispositions pour que ce genre de comportement puisse s'arrêter au Congo. Parce que les Congolais ne pleurent que sur ça. Nous nous disons que, est-ce que nos autorités regardent? Si au moins on peut faire intervenir la police, oui, est-ce que la police avait tous les éléments possibles pour pouvoir faire face? Nous disons non. On ne peut pas seulement faire intervenir la police, mais ne pas lui doter de tout ce qu'il faut. Je le dis en tant que société civile, avec des larmes aux yeux, la situation que vivent les Congolais sur les morts, nous en avons marre. Ça, il faut le dire. Nous en avons marre, mais qu'à cela ne tienne, que nos autorités, que ce soit provinciales ou nationales, qu'elles prennent cette question en main et qu'elles voient dans quelle mesure le plus rapidement possible trouver une solution. La solution voudrait dire qu'il n'y ait plus de déplacés et que ce conflit doit s'arrêter pour qu'on ne parle plus même d'un seul mort pour les Congolais.
Merci. Pierre Virgence, selon le ministre de l'Intérieur, la RDC connaît plus de 1000 conflits intercommunautaires. Qu'est-ce que cela peut traduire à votre avis?
Cela traduit évidemment d'une part l'immensité du territoire, ça traduit aussi le fait que des conflits en réalité il y en a toujours eu, mais pendant, je vais dire pour simplifier, avant la colonisation, il y avait des règles entre les ethnies pour pacifier les moments d'après-guerre. Et maintenant, avec la modernisation qui est là, c'est un fait, eh bien, ces procédures de réconciliation après les batailles, visiblement, ne trouvent pas assez leur place. Et on voit bien que les haines ne s'arrêtent pas. Auparavant, il y avait des systèmes qui permettaient de calmer les guerriers. Et puis maintenant, on voit bien que les querelles continuent. Et donc, ce n'est pas l'État moderne que devrait être le Congo qui agit, l'État congolais est, on le sait, réduit à l'impuissance. Il suffit de voir le budget qui a été voté au début de cette semaine. On voit bien que c'est un budget tout à fait minime par rapport aux moyens dont l'État devrait disposer dans un pays de cette étendue et de cette richesse. Et donc, effectivement, l'État congolais ne parvient pas à tenir les promesses, je dirais, que la modernité lance à ses citoyens.
Merci. On prend une petite pause avec Essakola, interprété par Papa Wemba Koffi Olomide, et on revient juste après. C'était Essakola, tiré de l'album Wake Up, à travers cette chanson. Papa Wemba et Koffi Olomide prêchent l'amour du prochain, les vivre ensemble et la cohabitation pacifique des communautés. On revient à l'actualité de cette semaine. Au Nord Kivu, une accalmie relative était observée ce vendredi dans la zone de Kibumba, territoire de Nyiragongo. C'est après des affrontements toute la matinée de jeudi dernier. Selon plusieurs sources, dans les groupements des Bambo et Bukombo, territoire des Rutshuru, en revanche, les hostilités se poursuivent pour un troisième jour consécutif. Plusieurs sources affirment que les belligérants FARDC, groupes armés locaux d'une part, les rebelles du M23 et leurs alliés de l'autre, sont en alerte maximum et renforcent leur position. Jusqu'ici, il n'y a pas assez de précisions sur qui de ces forces occupe Kibumba après ces intenses combats. Certains groupes armés disent avoir repoussé les M23 de cette commune rurale. D'autres sources affirment que Kibumba ne serait occupé par aucune force, mais que les rebelles du M23 seraient toujours dans les environs. Pierre Virgence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Boutembois en RDC. Vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi.
Bien, parce que, en tant que professeur à l'université catholique du Graben à Boutembourg, évidemment, je suis très, très concerné, hein, par toutes les violences qui touchent le grand nord du Nord Kivu, mais aussi par ce qui se passe autour de Goma, parce que, voilà, c'est l'instabilité de la région, c'est le témoignage, d'une certaine manière, de l'imperfection vraiment énorme de l'État congolais, l'impossibilité pour lui de faire respecter ses frontières et toutes les difficultés dans les négociations diplomatiques des autorités congolaises de faire respecter leur point de vue. On voit bien la force régionale des États de l'Afrique orientale, eh bien ces forces-là, elles sont considérées par les populations et par une grande partie de la société civile du Nord Kivu comme des forces en réalité d'occupation, de la même façon pour elles que le M23 ou les FDLR ou même les FARDC, puisque beaucoup de gens dans la société civile estiment que le fait d'avoir mis la région en état de siège et d'avoir amené la FARDC, c'est juste une manière en quelque sorte de réguler le marché complètement informel et bandit du coltan, du diamant et de l'or, et d'avoir permis à des généraux en fait de s'emparer de ce système, ce qui fait que le président de la République est en quelque sorte coincé dans une annonce de pacification. Il a permis un système d'enrichissement qui a été multiplié par l'occupation militaire. Et là, on a l'impression qu'il est prisonnier, effectivement, des gens qui devraient, en principe, agir pour lui.
Professeur Pierre Virgence, cette crise de l'Est dure depuis plus de 20 ans. Des initiatives ont été prises, des solutions ont été proposées, mais la crise perdure. Et des hypothèses, soit ce sont les solutions proposées qui sont inappropriées, inadaptées, irréalistes, ou il y a plutôt des acteurs nationaux et aussi de l'étranger, qu'on ne sait pas identifier, qui veulent maintenir le pays dans cet état. Et à votre avis, c'est quoi l'hypothèse plausible?
C'est-à-dire que toutes ces hypothèses sont plausibles, et ce qui est évidemment le plus présent dans la tête de la plupart des Congolais qui analysent la situation, c'est le rôle énorme joué par, je dirais, un des deux seuls pays de la région qui a une véritable armée organisée et efficace, et qui peut aussi permettre à cette armée d'avoir des forces de défense en principe de son pays qui deviennent en fait des militaires sans l'uniforme officiel, d'avoir des forces qu'ils soutiennent militairement et avec des munitions systématiquement. Et donc effectivement, tout le monde pense que l'hypothèse rwandaise est la plus probable comme étant une des causes de l'instabilité, une des causes importantes. Et on voit bien, voilà, les grands pays voisins se sont servis vraiment de la richesse du Congo pour se reconstruire, pour reconstruire des États, pour construire des forces armées, et ils continuent à profiter de cette position. Je pense que si les Congolais ne parviennent pas à imposer dans les négociations internationales le fait que le Rwanda ne peut pas avoir simplement la place qui est la sienne à l'heure actuelle, mais on ne peut pas simplement considérer que le Rwanda a été victime d'un génocide. Il a été victime d'un génocide, et ceux qui sont au pouvoir maintenant ont évidemment utilisé cette situation pour se donner une position particulière dans le système international, et ils ont en quelque sorte, je dirais, instrumentalisé ce qui leur a permis de venir au pouvoir. Et je dirais, on a une situation dramatique, hein, pour tous les habitants, dramatique pour l'État congolais qui ne parvient pas à se reconstruire. Mais il y a aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier, vous l'avez mentionné, toute une série d'hypothèses internes, hein, sur le fait que le système de corruption qui est présent en République démocratique du Congo fait que à tous les États, je dirais, de la chaîne de commandement, eh bien, il y a des gens qui profitent de l'instabilité et qui profitent de l'insécurité.
Merci, Maître Gentil Sukulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Comment vous comprenez l'intensification des combats dans le Nord Kivu entre les FARDC et les groupes armés locaux d'une part, et les rebelles du M23 et leurs alliés de l'autre?
Bien, merci beaucoup, monsieur Guy Mathieu. Je crois que tous ces combats n'ont qu'un seul objectif, c'est la déstabilisation de la RDC. La RDC est déstabilisée sur tous les points, en commençant même sur ses propres minéraux. Voyez, on nous fait la guerre à gauche, à droite, et nous ne savons pas à quel point c'est voué. Je pense que nos autorités doivent se décider et savoir ce qu'il faille faire pour arriver quand même à la protection de nos minéraux. Parce qu'on peut dire que toutes ces guerres n'ont qu'un seul objectif. Mais maintenant, nous, en tant que Congolais, devons-nous rester dans cette situation? Parce que toutes les solutions proposées par le président de la République, apparemment, ne trouvent pas de solution. Mais je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse encore une fois de plus pour savoir quelles solutions faudrait apporter déjà au niveau de la diplomatie et comment il faut s'y prendre pour qu'on arrive à une solution. Cet état de choses, bientôt là, ça sera les élections. Mais comment allons-nous aller aux élections où déjà une partie de la République démocratique du Congo est en train de vivre dans cet état de choses tous les jours? Et c'est une situation qui semble être préoccupante pour les Congolais. Donc moi, je pense pour ma part qu'il faudrait vraiment qu'on essaye de revoir. Hein. C'est une recommandation que je fais comme ça à nos autorités, surtout au président de la République, de revoir un tout petit peu la situation pour savoir qu'est-ce qu'il faille faire, surtout pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le défaut pour les Congolais de l'Est de vivre en paix, c'est-à-dire que ce sont tous les Congolais qui sont malades par cet état de choses. Et cet état de choses, cette instabilité-là, ne se limite pas seulement au niveau du défaut de la paix, mais aussi même au profit de nos minéraux. Parce que les Congolais ne profitent pas des minéraux du Congo, c'est plutôt d'autres pays qui en profitent. Alors, on se dit... Nous avons toujours demandé à nos forces armées de pouvoir faire leur travail, mais je pense qu'il y a lieu de revoir la situation pour que les choses essayent d'aller de l'avant.
Merci Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, émettant de Kinshasa. Récemment, le président angolais João Lourenço a fait savoir que les processus de médiation de l'Union africaine pour la normalisation des relations entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'Angola est dans l'impasse. Et comme entrave majeure de ce processus, selon lui, c'est le cantonnement des rebelles du M23. Or, les M23 conditionnent leur cantonnement au dialogue direct avec le gouvernement de la RDC. Et comment vous entrevoyez l'issue de ces conflits quand on sait que la RDC refuse de négocier avec ces rebelles?
On ne négocie pas avec l'agresseur. Je vais commencer par corriger ou rectifier quelque chose qui a été dit par le professeur Pierre, dont j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'intervention. Il a parlé de l'hypothèse où l'option la plus probable serait le Rwanda. Non, il ne faut pas avoir peur de citer le chat par son nom. Le problème de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo s'appelle le Rwanda. Et quand on connaît déjà le nom de l'agresseur, on s'adapte à cela et on trouve les moyens nécessaires pour faire face à l'agresseur. La République démocratique du Congo, il faut le dire, a été simplement victime de sa bonne foi en acceptant d'abord d'accueillir, je crois en 1994, les réfugiés rwandais, ceux qui fuyaient d'ailleurs ces problèmes de génocide au Rwanda, et quelques années après, le même que nous avons accueilli chez nous, de bonne foi, se sont retournés contre nous. Ils ont pris les armes contre la République démocratique du Congo qui leur avait offert son hospitalité. Les FDLR n'ont jamais constitué un problème pour le Rwanda parce que aujourd'hui le régime de Paul Kagame utilise les FDLR comme prétexte pour venir faire la guerre à la République démocratique du Congo. Ils ont utilisé hier l'AFDL, ils ont utilisé le RCD, le CNDP, aujourd'hui le M23. Demain, nous ne savons pas sous quelle forme prendra bien sûr cette intention de vouloir mettre la République démocratique du Congo à genoux. Je pense que plusieurs initiatives ont été prises sur le plan continental, mais ces initiatives, excusez-moi les termes, moi je les prends comme une simple distraction. Aujourd'hui, il y a lieu de se demander ce que fait l'EAC dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez parlé du président angolais qui essaie de jouer à la médiation, mais il faut savoir qu'il y a un rôle aussi, une certaine complicité de la communauté internationale qui se limite simplement à condamner avec de termes un peu gentils, mais il ne suffit pas de dire qu'on décourage l'implication de pays extérieurs, l'implication extérieure dans les conflits en République démocratique du Congo, mais plutôt prendre des sanctions nécessaires. Nous les avons pris, prendre des sanctions contre certaines personnalités en République démocratique du Congo quand il s'agissait de la violation de principes démocratiques. Pourquoi les mêmes qui ont pris ces genres de sanctions ne peuvent pas sanctionner le Rwanda? On sait que c'est un pays qui dépend beaucoup plus de l'extérieur. Pourquoi ne pas couper, par exemple, l'aide au Rwanda? Je pense qu'il y a des mesures fortes qui doivent être prises sur le plan international contre le Rwanda pour le pousser à enlever ses pieds de la République démocratique du Congo. Et sur le plan interne, il y a des mesures fortes qu'il faut prendre. Je pense que la solution idéale serait le renforcement de l'armée nationale. Si nous parvenons à construire une armée forte et dissuasive, nous ferons peur à tous ceux-là qui sont en train d'envier aujourd'hui les richesses naturelles de la République démocratique du Congo. Parce que, comme les précédents co-débatteurs l'ont dit, le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, ce sont ses richesses naturelles. Mais comment repousser ceux qui envient ces richesses? C'est de réformer d'abord notre armée. On a parlé depuis Bellurette d'une armée infiltrée. Je pense que ces problèmes doivent être résolus. J'espère que ceux qui sont au pouvoir sont interpellés. J'espère qu'ils sont en train de conjuguer les efforts pour essayer de faire un nettoyage d'abord au sein de l'armée. Nettoyer l'armée, construire une armée forte. Et je dis, une armée forte, ce n'est pas seulement avoir un armement lourd. Ce qui fait la force d'une armée, c'est cette capacité de faire peur à l'ennemi. Et sur ce plan, je pense qu'il y a les services de renseignement qu'il faut renforcer. Je pense qu'il y a tant de choses qu'il faut faire pour réformer notre armée. Et puis, il faut saluer aussi ce patriotisme de Ouazalendo qu'il faut encourager. Ces compatriotes qui se sont levés pour défendre la patrie devant l'agresseur. Parce que l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo donne bien sûr le pouvoir à tout Congolais de défendre le pays quand sa souveraineté est menacée ou un individu qui essaie de prendre le pouvoir de force. Nous voyons un pays agresseur qui vient instrumentaliser certains compatriotes pour mettre à genoux et déstabiliser la République démocratique du Congo. Et quand des compatriotes s'élèvent pour défendre la patrie, je pense qu'il faut pratiquement les encourager, mais aussi ne pas se limiter là, interpeller beaucoup plus la communauté internationale. Je pense que la guerre, il faut la faire sur tous les plans. Il y a l'aspect diplomatique qu'il ne faut pas négliger, donner carrément la chance à ceux qui se pointent pour essayer de jouer des médiations entre les deux pays, parce que le Rwanda sera notre éternel voisin. Nous ne déplacerons jamais le Rwanda de sa position géographique actuelle. Nous avons tout intérêt à faire la paix, et cette paix profitera non seulement au Rwanda, non seulement à la République démocratique du Congo, mais aux autres pays de la région. La République démocratique du Congo a 9 voisins, et le développement de la République démocratique du Congo peut entraîner aussi celui des autres pays de l'Afrique centrale, celui des autres pays de la région. C'est pourquoi on ne doit pas négliger la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. La communauté internationale doit mettre la pression sur le Rwanda. Et une fois le Rwanda retiré, l'est de la RDC retrouvera la paix.
Merci, professeur Pierre Vigeon. C'est pour vous, c'est quoi, ça pourrait être quoi l'issue de ces conflits?
Le problème, c'est que voilà, donc tout ce qu'on vient de dire ici, ce sont des belles déclarations d'intention. Hein. Le problème, c'est que le Congo n'a pas ce que les sociologues appellent le monopole de la violence sur son propre territoire. Et donc, je pense qu'effectivement, alors là, on doit peut-être dire les mots brutalement, une mise en ordre de l'armée congolaise est indispensable. Il faut qu'il y ait une chaîne de commandement qui partent du sommet, c'est-à-dire des autorités politiques jusqu'aux simples soldats, et qui fonctionnent, qui fassent que quand on donne un ordre à quelqu'un, cet ordre soit exécuté, et que si quelqu'un ne l'exécute pas, une sanction immédiate et dure soit appliquée. Si on ne fait pas ça, on n'a pas d'armée. Quand la République française a été attaquée par tous les pays d'Europe juste après la Révolution française, le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'en sortir, c'est de réorganiser son armée de façon effectivement à ce que les généraux soient obligés d'obéir et que tout le système de commandement suive les ordres donnés au sommet. Or, pour faire ça, il faut être prêt à prendre des sanctions, il faut être prêt à renverser les rapports de force, il faut être prêt, effectivement, à prendre des décisions très difficiles. Mais je pense qu'on n'a pas, au Congo, depuis la fin de la colonisation, on n'a pas d'autorité qui sache réellement défendre toute seule ses frontières. Il ne faut pas oublier que toute l'Afrique a vécu, depuis la fin de la colonisation, dans une période de paix relative parce que la plupart des dirigeants étaient d'accord sur le principe de ne pas toucher aux frontières issues de la colonisation. Et ça a fait une paix relative. Mais maintenant, toute une série de pays sont en train de remettre en cause ces principes-là. Et on voit qu'il y a toute une série de petites guerres de frontières qui sont en train de se passer à l'échelle de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, effectivement, le Congo doit se donner les moyens de survivre dans cette situation-là. Sinon, effectivement, on risque une balkanisation du Congo, c'est-à-dire une fragmentation du pouvoir congolais, et donc, effectivement, la fin du grand rêve de Patrice Lumumba, qui était un patriotisme, non seulement panafricain, mais déjà un patriotisme congolais.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Nous allons écouter Doubletto, cette nouveauté des Ferregola, contenu dans l'album Galaxy 2, et on revient juste après.
Dynastie, esprit d'équipe, double taux, Toto Chibula, Willy Claude Chab, Léo Chaumba leader.
Toto, un soleil qui s'élève tôt, y'a qu'après on se cheval à Ménanga, Longo Langa n'a pas lu moi tant plus tôt. Na kota chato ya muna goe Double to bimi sanga ina geto Ya ba chagre wa yu esos wa na moto
Tresor mazulio
Lo koto no ya pa meno ki sakampula ya esengo E bon ma presas no el ekigato
Patrick Njadil expert
Toto egal double to Double beba santi manahato Mitiplie vos gringo Elvi sugar hey
Adeline Loma Mabing Levis Bibi mama na dan
Ni konga oye bo makate Zali oya montre Kasi soki o melita Ngwe kobo mangae Poto na le li le li Pato kobe si sanga I poto teo Soki ambute ya shtoto Swata moto Pota no kimbango Panya stara koti karase
Dr. Jean Moussan
Mbasu sina yoe Yaka yasminyana
Papa bonita alondro
Bleso
Delta Timer Double Motema ya Chico Winner na London
Mabanko na yo Centre ya retrouvay Ya babile mdinyo So ya mokilyo
Bati lwa lwa
J'ai un top admirable Ombre na yo et tigala Maretara te pa Welu la se koma Oza koto Toto Mema nana bato Si tuke Mabante na yo motema Na plato damu
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet du conflit intercommunautaire entre les Mbole et les Lingola dans la province de la Tchopo. Nous avons également analysé l'intensification des combats au Nord Kivu. Participe à cette émission. Dominique Dinanga, il est journaliste à la radio Top Congo FM émettant de Kinshasa. Maître Gentil Soupoulati, présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. Et en ligne depuis Liège en Belgique, Pierre Virgence. Il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Contentieux électoral, c'est ce vendredi que la Cour constitutionnelle a amorcé l'examen du contentieux des candidatures à l'élection présidentielle. Sur 12 requêtes reçues par les greffes électorales, seules les candidatures de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi font l'objet de contestations. Les autres requêtes sont déposées contre la CENI. La Cour dispose ainsi de 10 jours à partir de la publication des listes provisoires des candidatures à l'élection présidentielle pour statuer sur les 10 contentieux. Sachant que c'est le 18 novembre prochain qu'il est prévu la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle un jour avant le début de la campagne électorale. Maître Gentil et Soukoulati, vous avez souhaité nous parler de ces contentieux électoraux. On vous écoute.
Oui, monsieur Bill, d'abord, c'est une question qui intéresse plus d'un Congolais, surtout s'agissant de contentieux électoraux. Voilà pourquoi j'avais quand même préféré essayer d'en parler, mais quelque peu avec beaucoup trop de réserves en ce qui concerne les requêtes, comme la Cour est saisie, et que moi, peut-être, en ma qualité d'avocat, je ne saurais mettre un point de vue au fond, parce que la Cour étant saisie, qui pourra se prononcer dans quelques jours, comme c'est prévu par la loi. Et puis, par rapport à ces questions, plus d'un Congolais peut se poser la question, pourquoi saisir la Cour constitutionnelle par certains candidats. Je dis, mais c'est conformément à la loi qui le fait. Donc, la loi prévue à ce qu'un candidat qui peut avoir un élément à pouvoir présenter devant la Cour, au vu de la candidature de notre candidat, il peut le faire conformément aussi à la loi. Et je pense que cela a été fait dans ces conditions-là. Et c'est à nous de pouvoir suivre sur le terrain l'examen qui sera fait par la Cour constitutionnelle jusqu'à la décision qui sera rendue, afin que la CENI qui attend ce procès-là puisse également voir dans quelle mesure revenir sur ces listes ou également publier les listes telles que reçues selon les candidats par la CENI. Donc, en ce moment ici, nous pouvons dire aux Congolais que la saisine de la Cour constitutionnelle permet également à la CENI de pouvoir, en temps utile, après la décision de la Cour constitutionnelle, soit de modifier sa liste, soit de garder la liste telle que, si jamais pour certaines requêtes, la Cour pense être irrécevable, donc la CENI pourra garder ses listes telles que reçues, mais dans le cas où la requête peut être déclarée recevable, la CENI se verra bien obligée de pouvoir modifier sa liste conformément à la décision qui sera rendue sur une autre candidature.
Oui, Maître Gentil Soukoulati, cette question semble inquiéter beaucoup de gens à cause des conséquences qui pourraient, n'est-ce pas, en découler. Et je rappelle que vous êtes praticienne des droits. Et comment faut-il gérer ces dossiers de manière qu'ils ne créent pas de frustrations?
Bon, je pense que la seule manière à ne pas créer de frustration sera seulement à ce que la Cour constitutionnelle se prononce conformément à la loi. Ça veut dire que les juges doivent statuer parce qu'ils n'ont que pour l'autorité la loi. En ce moment-là, que lorsque la Cour constitutionnelle rendra sa décision, il n'y aura pas de frustration si c'est rendu conformément à la loi. Voilà pourquoi, tantôt là, nous venons de dire que nous ne savons pas émettre vraiment un point de vue et accentuer. D'abord, par défaut de ne pas avoir toutes ces requêtes pour voir leurs motifs, mais que nous ajoutons pour dire que si c'est rendu conformément à la loi, ça veut dire que quand c'est conformément à la loi, tout le monde va se plier par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle. Il n'y aura pas de contestation. C'est vrai que les gens vont se mettre toujours à faire des déclarations, mais face à une décision qu'allons-nous faire si ce n'est pas se plier? Mais je pense que les juges, puisque tant de juges d'une haute juridiction,
vont statuer conformément à la loi pour pouvoir examiner les requêtes reçues et réserver à ces requêtes-là une suite dont tous les Congolais attendent parce qu'ils ont leurs yeux braqués sur la Cour constitutionnelle quant à ce.
Merci Dominique Dinanga. En ce qui concerne les dossiers Moïse Katumbi, l'ancien ministre de la Justice Alexis Thambo Mwamba, dans une sortie médiatique, a estimé que ces débats n'existaient plus à partir du moment où il avait livré un certificat de nationalité à Moïse Katumbi à l'époque quand il était encore ministre de la Justice. Comment vous réagissez au propos de M. Alexis Thambo Mwamba?
D'abord, je vais commencer par rappeler que les élections sont une compétition et chaque compétition a ses règles. Il y a ce qu'on appelle des règles de jeu. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est en train de se pencher sur les différentes requêtes introduites contre les candidatures de Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Je ne suis pas juriste, je ne vais pas me substituer à la Cour constitutionnelle, mais tout ce que nous voulons, c'est que le droit soit dit, comme le disait tout à l'heure Maître Gentil, que les droits soient dits, que les règles de jeu soient respectées. Si l'un ou l'autre candidat n'a pas respecté les règles de jeu, il doit être carrément invalidé. Moi, je ne veux pas qu'il y ait un traitement spécial pour un candidat. Si un candidat ne remplit pas les règles, et la Cour constitutionnelle connaît les règles qui sont déjà bien établies et qui sont connues de tout le monde. À un certain moment, il y a eu cette histoire des originaux qui n'ont pas été déposés à la CENI par le camp Moïse Katumbi, ce qui a été fait quelques heures après. Et je pense que si, au niveau de la Cour constitutionnelle, on cherche à faire respecter le principe, ce serait une bonne chose, il n'y aura pas frustration. Je pense que les candidats qui n'auront pas rempli les règles ou plutôt les conditions requises doivent en tirer toutes les conséquences. Je m'en vais répondre à votre question à propos de la dernière sortie médiatique de l'ancien ministre de la Justice Alexis Thambo Mwamba. Je pense qu'à un certain moment, on doit être sérieux. Surtout quand on occupe un certain niveau de responsabilité au sein de l'État. J'ai une vidéo, je dis bien, j'ai une vidéo avec moi, où Alexis Thambo Mwamba clame bien qu'il détenait à cette époque-là des preuves après deux enquêtes sérieuses menées par le service administratif que Moïse Katumbi ne détenait pas la nationalité congolaise. Je dis bien Alexis Thambo Mwamba à hier qu'il détenait toutes les preuves attestant la nationalité italienne de Moïse Katumbi. Qu'il vienne nous dire aujourd'hui que ce débat n'a plus sa raison d'être et qu'il ne détient aucune preuve d'une autre nationalité portée par le président d'Ensemble pour la République. Quelque part, il s'est contredit. Quand la politique peut tout corrompre, quand la politique peut corrompre même le droit, en tout cas, nous ne sommes plus un pays, nous voulons un état de droit où tous les Congolais jouissent de leurs droits. Ce n'est pas parce qu'il est dans l'opposition ou il est dans l'autre camp qu'il est d'une autre nationalité, il est italien parce qu'il n'est pas dans, il n'est plus dans votre camp politique, il est italien. Et aujourd'hui, quand il y a un rapprochement politique entre les deux camps, vous venez contredire tout ce que vous avez fait hier. Je pense que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui doivent en tirer des leçons. Quand vous êtes au pouvoir, faites bien les choses parce que les erreurs que vous commettez aujourd'hui vont vous rattraper demain. Et quand vous viendrez vous de dire, face à la population, vous perdez toute votre crédibilité. Faites mieux les choses. Quand vous prenez des décisions, rassurez-vous que ce sont de bonnes décisions et qui respectent les lois du pays. Merci beaucoup.
Merci Pierre Vergence. Étant donné la méfiance qu'on constate au sein de la classe politique congolaise, vous pensez que les arrêts qui seront pris par la Cour constitutionnelle pourraient mettre tout le monde d'accord, quelle que soit la nature de ces décisions?
Ben, c'est clair que le fait qu'il y ait une plainte contre Moïse Katumbi, ça fait évidemment peur à toute une série de gens qui doutent de la neutralité de l'appareil judiciaire et d'ailleurs de la CENI. Si ces gens-là sont quand même légion au Congo, à se méfier de l'indépendance de la Commission électorale nationale indépendante et de l'indépendance judiciaire. Donc, effectivement, là, il y a une vraie méfiance. Ce qui est un peu rassurant, je trouve, dans la nouvelle de cette semaine, c'est que là, il n'y a pas eu de plainte contre Martin Fayoulou. Or, quand même, d'après les chiffres dont nous avons cru pouvoir disposer lors de l'élection de 2018-2019, eh bien, Martin Fayoulou a quand même une popularité certaine dans le pays. Donc le fait qu'il n'y ait pas de plainte contre lui et que la CENI a déjà avalisé la liste des gens qui ont déposé leur candidature, c'est déjà, je trouve, un signe relativement rassurant. Mais évidemment, si Moïse Katumbi est en plus dans la course, ça rendra le combat pour le seul tour, puisque maintenant il n'y a plus qu'un seul tour aux élections présidentielles, je le rappelle, et finalement ça rendra le combat encore plus difficile pour tous ceux qui voudront défier, je dirais, le président en place.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Rebe de Pongolov et on revient juste après. C'était Rebe de Pongolov, Pongolov que l'on surnommait la voix limpide du Zaïre. Elle nous a quittés à l'âge de 33 ans en 1990. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Je rappelle que nous avons dans cette émission Dominique Dinanga, il est journaliste à la radio Top Congo FM, mettant de Kinshasa. Maître Gentil Soupoulati, elle est présidente du conseil d'administration de la nouvelle société civile congolaise. En ligne depuis Liège en Belgique, Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Butembo en RDC. Crise entre les pétroliers et les gouvernements, le ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe a signé lundi 23 octobre une nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Les litres d'essence, par exemple, coûtent désormais 3 970 francs congolais dans la partie est du pays, alors qu'à l'ouest, il est fixé à 3 225 francs congolais. Cette nouvelle structure des prix des carburants était la condition principale posée par les pétroliers de la partie est avant de rouvrir des stations et entreprendre l'importation des nouveaux stocks de produits. Les opérateurs économiques du secteur pétrolier dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Haut-Katanga avaient déclenché un mouvement de grève vendredi dernier. Cette situation a provoqué une hausse unilatérale du prix de la course en taxi et taxi-moto par certains conducteurs dans la ville de Kinshasa. Dominique Dinanga, vous avez souhaité nous parler de ces sujets, on vous écoute.
Merci beaucoup Gumaté et à tous les auditeurs de la radio Capi. J'ai bien voulu parler de ces sujets, c'est au regard de l'incidence des prix des produits pétroliers à la pompe sur le vécu quotidien de la population, sur le transport et même sur le prix de certains produits de première nécessité sur le marché. Comme vous l'avez dit, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a pris un arrêté, bien sûr fixant une nouvelle tarification ou de nouveaux prix de produits pétroliers à la pompe. Mais il faut dire que c'est l'aboutissement d'un processus. Alors, il y a eu certes un malaise dans la distribution des produits pétroliers, particulièrement dans les zones sud-est, mais ce malaise s'était traduit, vous l'avez dit, par la fermeture de stations. Il y a eu également une hausse vertigineuse des produits à la pompe dans ces deux zones. Par exemple, au niveau du Haut-Katanga, un litre d'essence s'est négocié jusqu'à 10 000 francs congolais et plutôt 6 000 francs congolais, alors qu'au niveau de Bukavu, la population a été contrainte d'acheter un litre d'essence jusqu'à 10 000 francs congolais. Alors, le gouvernement et la profession pétrolière avaient eu des discussions. C'était pour trouver donc des modalités d'un ajustement des paramètres de la structure de prix au regard de la flambée de cours mondiaux du pétrole brut et des produits raffinés. Vous savez qu'il y a trois facteurs qui entrent en compte dans la structure de prix de produits pétroliers. Il y a les prix moyens frontières ou les prix d'achat, il y a le volume, il y a aussi le taux de change. Et le principe dit que quand l'un de ces trois paramètres évolue jusqu'à 5% minimum, cela doit absolument entraîner une variation aussi du prix du pétrole à la pompe. Alors, il y a eu des discussions, mais il y a certaines décisions qui ont été prises au niveau du pays, pour ne pas, à chaque fois que l'un de ces paramètres varie, que le prix à la pompe suive automatiquement. Alors, vous savez que le prix des produits pétroliers, c'est le gouvernement qui le fixe et les pétroliers sont obligés de s'y conformer. Il y a une chose qu'on doit également noter. Le gouvernement a décidé depuis un temps de subventionner le produit pétrolier. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, si nous tenons compte du prix du baril du pétrole à l'échelle internationale et des autres paramètres, vous savez qu'il y a eu une variation du taux de change en République démocratique du Congo. Si on tenait compte de la variation de tous ces paramètres, aujourd'hui, un litre d'essence coûterait jusqu'à 5 000 francs congolais. C'est ça le prix réel, d'après les informations que nous détenons. Un litre d'essence coûterait aujourd'hui jusqu'à 5 000 francs congolais. Or, aujourd'hui, nous l'achetons autour de 3200 francs congolais. Qui paye le 1800 francs congolais? C'est le gouvernement qui verse les pertes et manques à gagner à la profession pétrolière. Pourquoi cela? C'est pour protéger le droit des consommateurs. Pour que ces coûts des produits pétroliers ne puissent pas entraîner une augmentation du coût de transport, mais aussi de certains produits sur le marché. Mais il se fait que le gouvernement ne réponde pas promptement à ces attentes de la profession pétrolière. Aujourd'hui, le gouvernement doit plus de 400 millions de dollars à la profession pétrolière. Il y a des efforts qui ont été quand même conjugués au niveau du ministère de l'économie nationale, avec ces montages au niveau de banques pour un paiement de peu plus de 200 millions de dollars et ses efforts se poursuivent, nous encourageons cela, mais aussi il fallait cette petite augmentation pour éviter qu'il y ait une rupture d'approvisionnement et quand cet arrêté a été pris, nous avons tous constaté que les choses sont redevenues normales, mais je pense que le gouvernement a du pain sur la planche. Une chose est certes de décider de cette majoration, mais il faut aussi payer les pertes et manques à gagner à la profession pétrolière et je pense que des efforts sont conjugués. Nous encourageons ces efforts et nous voulons que le gouvernement en fasse encore plus pour éviter la crise pétrolière. Nous avons connu des files d'attente à un certain moment au niveau de pompes, ça fait quelques mois. Nous ne voulons plus revivre cette situation. Alors, il faut bien s'occuper de la profession pétrolière pour éviter la rupture dans la chaîne d'approvisionnement.
Merci, Maître Gentil Sokolati. La crise entre les pétroliers et le gouvernement congolais, c'est une crise qui est récurrente. C'est chaque année que nous assistons, n'est-ce pas, ces bras de fer entre les deux partenaires. Pour vous, ça serait quoi la meilleure façon de gérer ces partenariats entre les deux, les gouvernements et les pétroliers, pour éviter que cette crise puisse éclater à tout moment?
Merci beaucoup, Monsieur Dimati. Je pense que la meilleure des choses serait que, comme ces deux parties sont partenaires, de temps en temps, ces deux partenaires doivent se mettre autour d'une table pour discuter de certaines difficultés d'avenir, pour arriver à prendre des précautions pour éviter que nous puissions arriver là où nous sommes. Imaginez-vous, comme Dominique vient de faire état des files que nous avons vécues à des stations d'essence. Imaginez-vous que cette situation revienne. Moi, si vous parle à une station, je dis faire 4 heures du temps ou 5 heures même pour avoir un peu de carburant. Donc, je pense que la meilleure des solutions serait que ces deux partenaires, parce qu'en tant que partenaires, à chaque fois que les deux partenaires sont route ensemble, ils doivent s'arrêter pour regarder à la direction dont ils viennent, pour voir si les choses sont bien passées et pour enfin de continuer ensemble les chemins qu'ils sont en train de faire. Et dès lors qu'il y a certaines difficultés, aucun des partenaires ne peut résister à se retrouver autour d'une table. Parce que c'est ce partenariat-là qui nous aide. D'un côté, il y a le gouvernement qui joue son rôle et de l'autre, il y a les pétroliers qui doivent jouer leur rôle. Je pense que notre exhortation, et que nous demandons à ces deux partenaires, à chaque fois qu'il y a un souci, que l'un informe à l'autre pour que la discussion autour d'une table apporte une solution, parce que ça ne sert à rien d'aller en bras de fer. Le bras de fer n'amènera aucune solution, mais par contre, le bras de fer mettra la population congolaise en situation difficile. Parce que s'il y a la hausse des prix de transport, cela posera des problèmes sur la population. S'il y a la hausse de prix dans des stations, cela posera des problèmes pour les consommateurs. Vous voyez que de tous les côtés, les deux partenaires doivent toujours être ensemble. Et ils doivent toujours discuter, se mettre d'accord, arriver à faire des concessions si c'est possible pour que les intérêts des consommateurs ainsi que de tous les Congolais soient protégés.
Merci Pierre Vigence, nous allons finir cette émission avec vous. Hein. Certains experts pensent qu'il faut mettre carrément fin à ce système de subventions afin de revenir au prix réel. Et comment vous réagissez aux propositions de ces experts, professeur Pierre Vigence?
Non, c'est une application simplement néolibérale qui donne tout le pouvoir aux puissances de marché. Le système de subvention est effectivement indispensable dans un pays aussi inégalitaire que le Congo, parce que effectivement une partie énorme de la population a besoin de produits pétroliers pour se mobiliser, et donc le gouvernement doit négocier, et je suis d'accord avec l'intervention précédente, sauf que moi je dis qu'il faut savoir établir à un moment donné un rapport de force, et que le gouvernement doit pouvoir dire que s'il y a des manœuvres de la part des entreprises pétrolières pour empêcher l'approvisionnement du pays, eh bien ces manœuvres seront sanctionnées par le droit. Il faut donc prévoir une infraction, qui d'ailleurs existe en fait déjà dans le code pénal, il faut l'appliquer effectivement, une sanction dans le cas où la sécurité nationale est mise en danger par des approvisionnements irréguliers. Et donc, à ce moment-là, il y a moyen de négocier en changeant le rapport de force, non pas en mettant l'État au service des profits des entreprises pétrolières, parce qu'elles continuent à faire énormément de profits, hein, et donc le prix demandé par les entreprises pétrolières ne dépend pas seulement du marché extérieur, et ça dépend aussi des dividendes qu'elles veulent servir à leurs actionnaires, donc c'est effectivement un surprofit en réalité de la part de la plupart des entreprises pétrolières, et là effectivement le gouvernement ne doit pas avoir peur, doit prendre ses responsabilités, et on doit voir effectivement quelle couleur ce gouvernement a, s'il est au service du peuple ou au service plutôt des entreprises pétrolières.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Dominique Dinanga, Maître Gentil Sukulati et Professeur Pierre Virgence. Merci aussi à Polydor Basunga qui est à la technique avec la participation des DJ Daddy, d'Hervé Voka et de Debs Vita sous la supervision d'Alex Sommet et de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur les sites radiocapi.net. On se sépare avec chers amis d'Emilia Belle, une façon pour nous de rendre hommage au légendaire guitariste et soliste congolais Rigo Star, de son vrai nom Bamundele Rigobert, décédé jeudi 26 octobre à Paris après une courte maladie à l'âge de 68 ans. Cher ami est issu de l'album Phénomène dont Rigo Star avait assuré la direction artistique en 1988. Et on se retrouve le samedi prochain.